Bonjour et bienvenue dans Séoul Connect. Je suis Mathieu, le modérateur de ce podcast. Toutes les trois semaines, dans Séoul Connect, nous irons à la rencontre d'un ou d'une francophone qui réside en Corée du Sud. Ensemble, sans tabou, nous parlerons de leurs ambitions, leurs craintes, leurs succès et leurs échecs. Le prochain épisode commence bientôt, juste le temps pour moi de vous rappeler de partager au plus grand nombre sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Allez, c'est parti! Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Séoul Connect. Aujourd'hui, nous sommes avec Mélusine Blanchet, une francophone, une française, résidant en Corée du Sud. Bonjour Mélusine et merci à toi d'être présente aujourd'hui.
Bonjour Mathieu, ravi et enchanté.
Vous connaissez très probablement Mélusine qui est très présente sur les réseaux, notamment sur le groupe Facebook des francophones en Corée. Mélusine, est-ce que tu peux te présenter quand même en quelques lignes pour tous ceux qui ne te connaissent pas, un peu qui tu es, depuis quand tu es là, ce que tu fais au quotidien?
Bonjour, je m'appelle Mélusine Blanchet, effectivement. Je suis arrivée en Corée pour y vivre en 2012, donc ça fera bientôt 10 ans. Et je vais avoir 32 ans aussi cette année. Et donc je suis responsable des opérations dans une agence de voyage qui s'appelle Cap Corée. Je suis mariée à un Coréen, nous avons ensemble un mignon petit garçon qui va avoir 2 ans aussi cet été. Et voilà, et on n'est pas prêt de quitter la Corée a priori.
Ok, ça fait du coup 10 ans que, presque, on va dire 10 ans que t'es en Corée. Alors si je me trompe pas, il me semblait avoir lu que toi, tu étais arrivé comme un bon paquet de personnes en Corée par hasard. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui t'a amené en Corée ce qui t'y a amené la première fois et ce qui t'a amené après à y rester, ce qui a été un peu un déclic pour dire « Ok, petite folie, je vais vivre en Corée du Sud ».
Alors, c'est venu d'une amie proche qui était fan à la base de culture japonaise, qui était déjà allée au Japon, qui adorait cette culture tout simplement, et puis bon, plus généralement la culture asiatique, mais elle avait vraiment un intérêt pour le Japon particulier. Et après y être allée, elle a commencé à correspondre avec des Japonais, et en fait, au fur et à mesure, elle a commencé à se lier avec une Coréenne qui était fan aussi de culture japonaise. Elles sont devenues amies. Et elle a commencé à s'intéresser à la culture coréenne. Donc moi, elle m'a un petit peu intégrée là-dedans, si je puis dire, en 2010, notamment au départ via la K-pop et les K-dramas. Donc surtout la K-pop, hein, elle était fan de SHINee et moi, ça m'a aussi embarquée, pour le dire. Donc au départ, la culture coréenne, ça a été comme ça. Et en fait, à force de regarder les émissions avec le groupe donc SHINee et tout ce qui touchait plus généralement à la culture coréenne, on a eu envie d'y aller en voyage évidemment. Et en juin 2011, il y a eu une super promo sur les billets d'avion que j'avais repéré via un groupe Facebook quelconque. Et du coup, pour 500 €, on pouvait faire l'aller-retour depuis Marseille, puisque nous, on était de la région sud. Donc depuis Paris, je sais que vous avez des prix d'avion beaucoup plus intéressants, mais nous, avec une escale, forcément, les prix sont toujours un peu plus élevés. Et 500 €, c'était vraiment pas cher, et c'était pour le mois d'août 2011, donc un mois et demi après avoir vu ça sur un groupe Facebook. Et du coup, sur un coup de tête, on a décidé de partir en vacances 3 semaines à Séoul, donc au mois d'août 2011. Et on a accroché toutes les deux, ça a été vraiment un super séjour. Et moi, j'avais comme projet à ce moment-là de partir en visa vacances-travail aux États-Unis après ma licence, puisque j'avais ma dernière année de licence à faire. Et une fois le diplôme en poche, je prévoyais de partir donc aux États-Unis. Et puis après ce voyage en Corée, pendant même le voyage, je disais oui, je disais à ma copine, qu'est-ce que tu dirais si au lieu de partir moi aux États-Unis, on partait toutes les deux en PVT en Corée du Sud dans un an. Donc je l'ai embarqué cette fois, chacun son tour. Et du coup, on a décidé pendant le voyage, hein, vraiment que voilà, il fallait absolument qu'on revienne et qu'on allait tout faire en une année pour pouvoir revenir en PVT. Donc c'est ce qui s'est passé en août 2012. Un an après, on est revenu et on s'est installé pour un an. Et puis finalement, j'avais décidé que c'était pas le moment pour moi de repartir en France. Donc j'ai décidé de rester tout simplement. Et elle est rentrée en France après le PVT.
Ok, et il départ. Semble que la décision de n'est toujours pas prise. Et qu'est-ce qui t'a fait dire justement, toi, que non, c'était pas le moment de rentrer en France
Franchement, je pense qu'il n'y a pas de raison logique. Je me sentais bien. J'avais toujours cet intérêt pour la Corée, de continuer à découvrir. J'étais aussi fan de K-pop et je pouvais vivre ma passion en fait en étant sur place. J'avais aussi des opportunités de travail, mais bon, ça, on en reparlera peut-être après, je sais pas. Mais voilà, il y avait tout un concours de circonstances qui faisait que je sentais tout simplement que c'était pas mon heure de rentrer en France. J'en avais aucune envie. Et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling et aussi, assez passionné. Donc c'est vrai que là, quand on veut, on peut. Et j'avais décidé que je voulais rester coûte que coûte. Et pourtant, c'était pas forcément facile parce que le côté financier, notamment, ne suivait pas forcément. Mais voilà, je me suis accrochée, quoi.
Ok. Et par curiosité, ça fera aussi une petite transition. Effectivement, on va commencer à parler de l'aspect professionnel. Tu avais fait une licence en quoi ?
J'ai fait une licence information communication à l'Université D'accord. d'Avignon.
Est-ce que tu peux nous parler de ton boulot actuel, puis de ton parcours professionnel en Corée ? Donc, si j'ai bien compris, tu es arrivé en Corée du Sud directement après ta licence. Donc, est-ce que tu t'es directement lancé dans le tourisme, ou est-ce que tu as eu plusieurs étapes qui t'ont amené à ton métier actuel ?
Oui, alors concrètement, c'est vraiment un hasard et un concours de circonstances que je me suis retrouvée dans le tourisme, parce que c'était pas forcément quelque chose que j'avais envisagé tout court. En fait, quand je suis venue en PVT, déjà je cherchais quoi faire, parce que bon, je pensais que ce serait difficile de trouver un job tout de suite, etc. Donc je savais qu'avec l'Université d'Avignon, c'était possible de faire un stage volontaire jusqu'en octobre. Donc même si j'avais été diplômée officiellement fin août, jusqu'en octobre, on pouvait avoir une convention de stage en fait avec l'université. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas faire un stage volontaire pour au moins commencer avec une expérience sur place. Et je savais aussi que je pouvais avoir une bourse en fait vis-à-vis de ça. Donc c'était 400 euros par mois, c'était pas incroyable, mais bon, sur un petit stage de 2 mois, ça faisait déjà 800 euros pour commencer à m'installer en Corée. Je trouvais ça intéressant à tout point de vue. Donc j'ai postulé un peu partout, et en fait à ce moment-là, il y avait une grosse agence de voyage japonaise qui s'appelle Autrement le Japon, qui subissait de plein fouet le drame de Fukushima, et qui donc cherchait des opportunités de s'en sortir, puisque évidemment le tourisme au Japon à ce moment-là, c'était complètement mort. Et ils ont décidé de lancer une agence qui s'appelait Autrement la Corée, et donc qui serait une filiale de Autrement le Japon. Donc ils ont cherché en fait des gens en Corée pour monter ce projet. Ils sont tombés sur Amélie Nari, qui a déjà fait un épisode avec Bart. Et du coup, moi j'ai fait ma demande de stage à ce moment-là, et donc en fait j'étais sous la direction, si je puis dire, d'Amélie et de l'équipe au Japon pour essayer de lancer en fait la filiale en Corée. Et moi j'étais vraiment sur l'aspect réseaux sociaux, communication. Voilà, au départ, pendant mon stage, c'était vraiment un stage de communication justement pour le début de cette filiale en Corée. Je fais donc mon stage chez Autrement la Corée. Et puis en fait, ils n'avaient pas encore de bureau et tout, donc c'était vraiment... c'était un petit peu à l'arrache, si je puis dire. Et en même temps, j'ai trouvé un job en fait très très rapidement dans un restaurant français en tant que serveuse. Donc c'est vrai que je faisais les deux pendant 2-3 mois, j'avais vraiment pas beaucoup de temps libre au début de mon PVT. Et donc ça, c'était ma première expérience dans le tourisme. Et en fait, quelques mois après, donc moi j'avais commencé mon PVT en août, j'ai fait mon stage donc septembre-octobre je crois. Et en fait, avec le printemps, les premiers touristes arrivaient pour Autrement la Corée. Et du coup, ils m'ont rappelé parce qu'il n'y avait que Amélie qui était en charge de ce groupe. Et ils avaient besoin forcément de quelqu'un qui puisse aider. Donc j'ai commencé à aider à ce moment-là. Donc c'est comme ça que j'ai mis les pieds pour la première fois dans le tourisme. Et ensuite, j'ai continué à travailler pour Autrement la Corée sur des missions pendant 2 ans. Et je croisais très régulièrement à l'aéroport le concurrent qui était Cap Corée. Et en fait, je m'entendais très bien avec Samy, qui est un des deux cofondateurs de Cap Corée. À chaque fois qu'on se croisait à l'aéroport en attendant nos touristes, nos voyageurs, on discutait sur nos vies, sur les différences entre la Corée et la France, sur nos expériences en Corée. Enfin voilà, on s'est très bien entendu, on a eu un très bon feeling. Ça paraît rigolo forcément parce qu'on était concurrents, mais il y avait de très bons rapports entre nous. Ce qui fait que quelques années plus tard, en fait, moi j'ai fait ensuite un an de cours de coréen intensif en institut de langue à l'université Sukmyong. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master en médias, donc toujours dans le côté communication, pendant 2 ans, donc pareil à l'université Sukmyong. Et en fait, au début de mon master, Samy m'a recontactée. Entre-temps, autrement, la Corée s'était un petit peu éteint par un concours de circonstances, plusieurs petits soucis, et puis le fait que le tourisme au Japon repartait à fond et que l'équipe du Japon n'avait pas forcément les moyens ni l'envie de continuer à faire des efforts en Corée alors que le Japon, ça explosait. Donc on avait un petit peu laissé de côté ça. Et du coup, Samy m'a proposé au début de mon master, c'était en 2015, de faire des missions pour Cap Corée. Voilà, j'ai commencé comme ça en fait, à faire de l'interprétariat coréen-français, anglais-français, pour des petites missions, de l'accompagnement quand c'était nécessaire, ce genre de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez Cap Corée. Et au début de ma deuxième année de master, ils m'ont proposé de passer en part-time au bureau. Donc là, j'étais vraiment dans le côté opérationnel justement, côté Samy, pour aider avec l'organisation des voyages de manière concrète.
Ok, ouais, donc juste qu'on puisse bien séparer, quand tu parles de mission, en fait, c'est ce que tu disais, c'est un peu plus être présent, par exemple, pour accompagner sur une journée ou faire de la traduction, et côté opérationnel, c'est vraiment la planification en lui-même, où tu reçois le brief, les clients qui disent « je veux quelque chose de plutôt orienté sur l'histoire », donc ok, ça va plutôt être sur telle ville, et vraiment préparer, pour bien séparer un peu les deux types de missions.
Oui, alors en fait, l'opérationnel, c'est à séparer avec le côté commercial. Donc le côté commercial, c'est le côté justement relation avec les clients, création du voyage. Et moi, je suis toujours d'ailleurs côté opérationnel. Donc c'est organisation du voyage dans les faits. Donc ça va des réservations jusqu'aux documents de voyage, puisque en l'occurrence, la plupart de nos voyageurs sont en liberté. Donc il y a de l'accompagnement ponctuel, mais sinon ils voyagent seuls, sans guide qui les suit tout le séjour. Et du coup, ils ont besoin de documents qui soient très précis, très bien développés, avec beaucoup de photos, beaucoup de plans, etc. Donc il y a une très grosse partie de mon travail encore aujourd'hui qui est sur ces documents pour être sûr que les voyages se passent de la manière la plus confortable possible pour les voyageurs.
Ok, très bien. Très bien. Donc, ok, je pensais, tu vois, que commercial et opération, ça aurait été la seule et même équipe, mais...
Parfait, non, c'est bien bien séparé. Après, évidemment, les deux sont toujours liés, mais parce que comme on est en opération, on est sur le terrain plus que la partie commerciale, même si ils essayent de mettre un peu les pieds quand même dans le cambouis. Forcément, on va donner nos conseils régulièrement. On est sollicité pour vérifier que tel voyage est faisable, que telle région, on peut vraiment la visiter dans les conditions optimales quand on parle pas coréen et qu'on va prendre les transports en commun, par exemple. Les deux sont liés, en fait, dans l'absolu. Mais c'est vrai que, de manière générale, à partir du moment où le commercial connaît suffisamment bien la Corée, on va être beaucoup moins sollicité.
Très intéressant. Donc ça a été vraiment quand même pour ton parcours professionnel très focus par le plus grand des hasards et la plus grande chance sur le tourisme. Et donc du coup, tu me disais, toi, t'as pris des cours de coréen intensif un an, 2 ans après être arrivé en Corée.
Alors en fait, pendant mon PVT, j'ai fait 3 mois de cours intensifs à l'université Sogang.
Ok.
Donc c'était le premier niveau de coréen. Après, pendant un an, j'étudiais en fait par moi-même le niveau 2, plus ou moins. Uh-huh. Et du coup, la troisième année où j'étais en Corée, c'est là que j'ai pris des cours de coréen intensif pour des soucis de visa aussi, tout simplement. Voilà, ça me donnait un visa étudiant de cours de langue et puis je me doutais que si je voulais rester là encore quelques années, valait mieux que je parle bien coréen. Donc là, j'ai fait 3 niveaux à Sukmyong, je suis rentré directement au niveau 3 et je suis allé jusqu'au niveau 5.
D'accord, ok. Donc t'étais quand même arrivé sans grande notion, enfin juste des notions, on va dire, de coréen et t'as développé tout ça après au fil de l'eau, si on peut dire, via des cours.
Oui, en fait, avant de venir pour le premier voyage en Corée, j'avais appris à lire le hangul sur Internet. C'est vraiment hyper simple et franchement, je le recommande à tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui ont peur en se disant ça va être comme le japonais ou le chinois, ça va être très compliqué à apprendre à lire. Et non, ça n'est absolument pas compliqué à apprendre à lire. Il faut 2 heures. Enfin, on dit qu'il faut 2 heures, mais ça prend vraiment 2 heures pour apprendre à lire. Donc, c'est un petit peu de mémorisation, mais c'est vraiment très simple, l'alphabet coréen. Donc, faut pas hésiter avant un premier voyage. En tout cas, ça m'a bien aidé sur des panneaux, des choses comme ça, parce que comme il y a beaucoup d'anglais en Corée, à partir du moment où on arrive à lire, même si on lit lentement au début, on arrive à se repérer grâce aux mots anglais qui sont écrits en coréen, en fait.
Ouais, ok, très très bon conseil, je suis d'accord, je partage cet avis. Ouais, juste la base pour se repérer plus facilement, pouvoir dire des mots-clés, c'est toujours utile dans un pays étranger quand on le visite. Pour rester un peu sur cette partie touristique et dans la fin de l'actualité, parce qu'on va parler du Covid, et oui, encore et toujours. Mais bon, on arrive à la fin, que ce soit en France ou en Corée. Pareil, là, les restrictions qui commencent à fortement baisser en Corée, donc on est sur la fin, on va arrêter d'en parler d'ici peu. Mais je pense que c'est intéressant d'en parler pour savoir comment ça a été traité en France et en Corée. Alors bon, sur la partie touristique, de toute façon, c'est au niveau mondial que c'était totalement mort. Donc je vais pas te demander est-ce que le tourisme a été impacté en Corée à cause du Covid. La réponse est plutôt claire, mais plutôt sur l'accompagnement qui a été reçu en France. Je sais qu'on a eu le fameux quoi qu'il en coûte, qui a poussé le gouvernement, qui a engagé plutôt le gouvernement à énormément subventionner les entreprises. Et les salariés en finançant une grande partie du chômage. En Corée, il me semble qu'il n'y a pas trop eu cette notion-là. Alors, vu que le secteur touristique a clairement été fermé parce qu'ils ont dit on ferme les frontières, est-ce que pour toi ça a été différent? Comment ça s'est passé?
Non, ça a été extrêmement compliqué. En fait, la plus grosse partie de l'aide du gouvernement coréen, ça a été des énormes prêts, en fait. Ils ont fait des prêts à taux quasi zéro pour tout le secteur touristique et je crois qu'ils l'ont fait aussi pour la plupart des commerces en fait, hein. Aujourd'hui, la plupart des commerces ont des énormes prêts à rembourser sur 8-10 ans. Je connais pas un seul hôtel qui n'ait pas un prêt Covid sur le dos actuellement. Voilà, c'était la seule manière de survivre, c'était ça. Après, il y a eu quelques aides au niveau du chômage technique. Donc, ils ont filé un peu d'argent pour le chômage technique, mais c'était pas. Alors, je connais pas tous les détails, mais moi, j'ai bénéficié du chômage technique quelques mois, et ils ont fait ça, je crois, pendant quelque chose comme 6 mois. Et
Ok.
ensuite, je suis passée en chômage normal. J'ai été équivalent de licencié économique. Voilà,
D'accord.
parce que tout simplement, ça repartait pas, quoi.
Et ensuite, ils ont vu la facture et ils se sont fait, on va arrêter, c'est ça?
Ouais, c'est un peu ça.
Si je traduis.
C'est un peu ça. Ce qui peut se comprendre aussi, hein, c'est compliqué de. Enfin, je pense que la France, pour le coup, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que dans le monde, la plupart des pays, évidemment, ne sont pas allés jusqu'à payer quoi qu'il en coûte. Ça coûte énormément, énormément d'argent.
Oui. Ça me fait penser en fait ce qu'on est en train de parler. Dernier épisode avec Laure Maffo qui est chanteuse de Pansori, donc c'est pareil, chanteuse de Pansori niveau événement, c'était un peu compliqué en Corée. Elle m'a dit elle qu'elle avait eu pas mal d'aide de la communauté française, alors sans soit forcément des aides financières, mais qui avait quand même un bon réseau français qui soutenait. Et qui pouvait à la rigueur se donner des missions de travail quand il le pouvait pour s'aider financièrement sans que ce soit des subventions. Est-ce que toi, t'as ressenti une aide particulière ou un soutien de la communauté française ou des institutions françaises telles que l'ambassade où t'as été moins dans cet engrenage?
Alors si, en fait, j'ai écrit aux représentants des Français en Corée, qui à ce moment-là était Pierre Ory, Et je lui ai écrit un mail parce que, en fait, j'ai accouché pendant le Covid de mon fils en août 2020. Et en fait, ma famille n'a pas pu venir parce qu'à ce moment-là, la Corée était complètement fermée. Donc, en décembre, je crois que c'était décembre 2020, je lui ai écrit pour dire, voilà, je sais que, évidemment, vous n'y pouvez rien, mais je tiens à écrire mon témoignage de manière officielle pour dire que c'est inadmissible que ma maman ne puisse pas avoir de visa à l'heure actuelle pour venir me soutenir alors que j'ai accouché en août 2020, qu'elle ne peut pas voir son petit-fils, que c'était très difficile émotionnellement puisque professionnellement c'était évidemment le néant. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était une période vraiment très compliquée et je lui ai dit voilà, ça fait un témoignage de plus de français à remonter aux instances coréennes de manière officielle, donc je vous écris cette lettre quoi. Et en fait, il m'a téléphoné, ce que j'ai grandement apprécié. Il m'a dit bon, effectivement, je note votre témoignage, je continue à collecter tout ça pour faire remonter à l'ambassadeur et aux instances coréennes pour essayer de débloquer les choses. Par contre, à côté de ça, vu que vous êtes au chômage et que vous êtes dans une situation compliquée, vous pouvez bénéficier de l'aide de la France avec l'aide de, c'était l'aide d'urgence Covid, enfin je sais plus le nom exact, mais voilà. Et en fait, c'était selon les membres du foyer, selon nos revenus, donc on a collecté tous les papiers avec mon mari. Et du fait qu'on ait un enfant, on avait un peu moins de 500 euros par mois. Mais cette aide, elle a été assez longue, quoi. Parce que je l'ai eue jusqu'en août ou septembre, je crois. Donc, de début 2021 jusqu'à septembre, octobre 2021, quoi. Donc, okay. C'était un bon coup de pouce, hein. Parce que en won, ça faisait certains mois, selon le taux de change, ça faisait jusqu'à 600 000 won par mois, quoi. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et après, à côté de ça, en termes financiers encore, je sais que l'ambassade avait un fonds d'urgence qui était un fonds qui était sous forme de prêt, mais de prêt à taux zéro et qu'on pouvait, avoir des aménagements pour rembourser, etc. Donc, je sais que certaines personnes en ont bénéficié parce qu'ils n'avaient plus du tout d'argent, même pour pouvoir rentrer en France pour un billet d'avion, etc. Mais je sais qu'à l'heure actuelle, ce fonds en question est à zéro puisque il y a plein de remboursements qui n'ont toujours pas été faits et que du coup, ce fonds ne peut servir actuellement à personne parce que pendant le Covid, il a été entièrement vidé. Donc voilà. Après, en termes de service et de la communauté française qui s'entraide, moi personnellement, je l'ai pas senti particulièrement. Mais après, peut-être que j'étais pas concernée. Par des missions de petits jobs ou de choses comme ça, parce que voilà, j'avais aussi mon fils, j'ai toujours gardé comme objectif de travailler sur Cap Corée. Voilà, même quand j'étais au chômage, je savais que ce projet n'était pas complètement terminé et que tôt ou tard, j'allais y revenir, en tout cas, je l'espérais. Donc c'est vrai que j'ai jamais lâché complètement ce travail et cette entreprise, on va dire. Donc j'étais peut-être moins concernée par les petites annonces qu'il pouvait y avoir.
Ok, super. Ouais, c'était juste temporaire, quoi. À juste titre, tu t'es dit ça.
Ouais, malheureusement, c'était un petit pari sur l'avenir. Mais...
Il ouais. Oui, y avait pas de raison que ça se relance pas après. J'en vois pas, en tout cas. En tout cas, c'est reparti. Et justement, parlons de la reprise. Parlons de cette
oui
fameuse reprise. Comment est-ce qu'elle se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Parce que c'est vrai que moi, je suis venu du coup une grosse dizaine de jours, mais directement, très 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 vite après la levée de la quarantaine. Et c'est vrai qu'il y a du monde, mais alors, par rapport à ce qu'espérait, en tout cas, je suis venu avec Lufthansa, il y avait moins de monde que ce que prévoyait Lufthansa, parce que je devais être sur un A380, ils ont pris un autre avion, ce qui a donné une situation assez drôle, qu'ils ont été obligés de déclasser des business class, parce que du coup, il y avait moins de place dans les business class, mais elles étaient toutes prises. Donc, t'entends au micro, ouais, est-ce que des gens de business class qui sont d'accord pour être déclassés? Vous serez dédommagés, évidemment. C'était assez comique, mais du coup, ouais, ça veut dire quand même qu'ils ont dû changer d'avion. Alors, problème technique ou parce qu'il n'y avait pas assez de monde, je me permets de juger personnellement en me disant que c'est plutôt la deuxième solution, j'ai peut-être tort, mais du coup, toi, comment est-ce que tu le sens le monde par rapport à avant le Covid, est-ce que tu trouves qu'il y en a plus, que c'est à peu près pareil? Comment se passe aussi la reprise, le retour au boulot?
Alors forcément, je dirais qu'il y a toujours moins de monde, évidemment, qu'avant le Covid, hein, ça c'est certain. Il y a encore le test PCR à l'arrivée qui limite pas mal de gens, parce que si on est positif à l'arrivée, ben, c'est 7 jours de quarantaine obligatoire, donc ça calme quand même, hein, c'est une roulette russe. Il y a aussi tous les non-vaccinés qui continuent à avoir la quarantaine quoi qu'il arrive, donc là aussi ça fait un gros frein. Et puis surtout, l'annonce a été faite quasiment à la dernière minute, quoi. Ils ont dit bon ben voilà, on rouvre la semaine prochaine. Enfin, on lève la quarantaine pour les vacciner la semaine prochaine. Donc c'est vrai qu'en termes de préparation, nous dans le monde du voyage pour les francophones, on sait que les Français ils préparent leur voyage entre 1 an et 6 mois avant le séjour longue distance. Donc pour les longues distances, pas pour les moyennes ou courtes distances. Et nous, la Corée, on est longue distance, donc on sait que la plupart des gens préparent leur voyage au moins 6 mois à l'avance. Bon, là, avec le Covid, forcément, ça a beaucoup chamboulé tout ça, mais ça fait partie de ça aussi. C'est-à-dire que là, on est submergé de demandes pour l'automne, par exemple. On sait que l'automne, ça va être super, super blindé. Et pareil pour l'année prochaine, on a les demandes déjà pour 2023, etc. Là, du coup, sur le court terme, il y a certaines personnes qui s'étaient préparées et qui étaient... voilà, qui avaient tout mis de côté pour pouvoir partir le plus vite possible dès que la quarantaine serait levée. Donc, c'est ceux qu'on a sur place, mais évidemment, c'est pas la grande majorité parce que tout le monde a, enfin, la plupart des gens ont un travail avec lequel ils doivent négocier des congés, etc. Donc, on peut pas partir comme ça sur un coup de tête. Le plus tôt qu'on va avoir pour ces personnes-là, c'est août, en fait. Donc, nous, le mois d'août, c'est vrai qu'on a énormément de voyageurs là qui prévoient de venir en août. Parce que c'est des congés plus ou moins posés déjà à l'avance et que vu qu'il y a eu l'annonce de la réouverture de la quarantaine ce printemps, ils ont tout de suite programmé pour l'été, quoi. Du coup, non, on est, enfin là en tout cas jusqu'au mois d'août, je pense que ça reste relativement calme en termes de tourisme. Le test PCR freine encore du coup beaucoup de gens. On espère qu'ils vont au moins lever le test PCR à l'arrivée. Celui du départ, ils ont annoncé hier avant-hier qu'ils allégeaient et que maintenant c'était possible de faire uniquement en antigénique, voilà. Ce qui est une bonne nouvelle. Ils ont aussi annoncé que maintenant les enfants de moins de 12 ans non vaccinés pouvaient venir sans quarantaine si les deux parents l'étaient. Ce qui est une bonne nouvelle aussi, puisque jusqu'à présent c'était les moins de 6 ans. Donc c'est vrai que nous, les moins de 6 ans, on n'a pas beaucoup de familles avec des enfants de moins de 6 ans qui viennent en Corée. Par contre, moins de 12 ans, c'est beaucoup plus fréquent, donc c'est une bonne nouvelle de notre côté.
Ok. Voilà. Bah, c'est très bien. Alors, si ça reprend, ça repart.
Oui. Alors nous, on est toujours en petite équipe. Bon là, ça y est, on est en train à nouveau de recruter. Je sais pas si tu as vu ça récemment, mais.
Oui, j'ai vu que tu t'as posté pour des missions. J'ai vu passer ça.
Alors, il y a pas que pour les missions. On a recruté déjà 3 personnes. Ça y est, le 3e recrutement s'est finalisé très récemment. Donc, on va à nouveau avoir une vraie équipe pour gérer toutes ces demandes et pour être prêt pour un niveau équivalent à 2019.
Ok, super. Parfait. Ah, je ne l'avais pas vu passer sur les recrutements hors mission. C'est dommage, ça m'intéresse.
Oui, après, on
cherchait du travail en Corée. Dommage.
Après, ça dépend des postes, mais c'est vrai qu'on a plutôt posté sur les sites coréens, sur les sites, j'ai posté aussi sur LinkedIn, enfin voilà, sur les sites un peu plus pro après pour les recrutements plus long terme.
Ok, ouais, je les yote, mais effectivement, j'ai pas vu passer. Ah, dommage pour moi. le prochain coup.
Voilà. Ouais. Écoute, si ça continue à croître, on va peut-être, enfin même sûrement, devoir recruter encore.
Ah bah parfait. Je vais vous suivre sur LinkedIn. on va faire ça. Pour rester sur le thème du voyage. Et commencer quand même à clore ce sujet sans révéler, parce que bon, bah, c'est ton métier, mais t'es lieux les plus secrets. Mais est-ce qu'il y a des endroits qui sont peu connus du grand public, j'ai envie de dire, mais que tu recommandes, alors que ce soit un quartier, un parc, une ville, est-ce que tu peux nous donner un petit lieu ou deux que tu conseilles vraiment, parce que voilà, c'est peu connu, mais c'est vraiment beau et ça vaut le détour.
Alors oui, je vais plutôt parler en ville parce que là, si je commence à détailler les lieux, je pense qu'on n'a pas fini. Mais en termes de lieux, alors déjà, moi, j'habite pas Séoul. J'habite maintenant depuis le Covid. En fait, on s'est un petit peu éloigné de Séoul. Maintenant, on habite à Namyangju, qui est donc en périphérie de Séoul. Et c'est une ville que j'adore, que j'adorais déjà avant d'y habiter parce qu'elle est entre le nord du fleuve Han et les montagnes du nord de Séoul. Et que du coup, on a plein de paysages, plein de nature. Bon, il y a quand même les immeubles moches parce que c'est partout dans tout le pays.
Ça reste la Corée.
Voilà, même dans le petit bled paumé, on va avoir les équivalents HLM qui émergent comme ça du paysage bien moche. Donc ça, malheureusement, on n'y coupe pas. Mais à côté de ça, moi, je suis très fan de café à la coréenne parce que c'est des super lieux de détente et puis de bon goûter aussi. Et là, à Namyangju, c'est vraiment la ville du café et des cafés en son ensemble. Du café aussi, puisque le roi Sejong venait à Namyangju pour boire son café. Donc, pour la petite anecdote, il y a le musée du café à Namyangju. Et du coup, le long du fleuve Han, notamment, il y a de super cafés avec des jardins, des parcs, etc. Donc, voilà, j'adore cette ville. Et ensuite, une autre ville qui est très peu connue, que ce soit des Coréens comme des étrangers, et que moi, j'adore et que du coup, j'ai un petit peu forcé pour mettre sur les séjours Cap Corée en auto-tour, donc avec location de voiture parce que c'est une ville qui n'est pas hyper accessible en transport en commun. C'est la ville de Danyang. J'insiste, c'est un N, ce n'est pas un M, ce n'est pas Damyang à côté de Jeonju que tous les Coréens connaissent. C'est Danyang avec un N près de la ville de Jecheon, qui est à peu près à 2 heures de route de Séoul. Et c'est une ville, pareil, il y a une rivière au milieu, il y a plein de montagnes, il y a un super pont en verre avec un point de vue qui est absolument époustouflant. Il y a des grottes, il y a des cascades, il y a des balades à faire sur le lac, enfin autour du lac et en croisière aussi. Il y a des randonnées, il y a vraiment plein de choses à faire. C'est une ville qui est super belle, les gens sont super gentils, on mange super bien aussi. C'est une ville où les spécialités c'est le tteokgalbi et l'ail, donc il y a des super tteokgalbi à l'ail que je recommande fortement, voilà. Et du coup, c'est une ville qui je pense mérite vraiment d'être connue. Et qui malheureusement est un peu absente de tous les guides touristiques qu'on peut voir sur la Corée dans le milieu international, que ce soit en anglais ou en français. Donc voilà, je vous invite à découvrir la ville de Danyang.
Eh ben, c'est noté. Je mettrai les noms un peu plus bas si je les repère. je les ai notés. Si tu me les envoies, ça sera mieux pour être sûr qu'il n'y ait pas de fautes ou autre. De confusion entre les deux villes, mais c'est un N. merci beaucoup. En tout cas, moi j'aime bien justement me perdre un peu dans les lieux qui sont pas connus. J'ai fini à Hwadam Soup quand je suis venu en avril.
Ah ouais, moi j'y suis allée à l'automne avec ma maman et elle a adoré quoi. C'était vraiment.
C'est ça.
Elle a surkiffé. C'était génial. Moi aussi, c'était la première fois que j'y allais. C'était magnifique.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et peut-être ceux de Cap Corée, si tu veux aussi vendre un peu Cap Corée, tu peux te faire un petit moment de promo. Je mettrai tous les liens aussi en description, évidemment.
Oui, avec plaisir. Moi, Cap Corée, j'adore mon entreprise. Hein. C'est vraiment, je vais être un petit peu corporate, mais c'est une très belle agence, je pense, avec de très bonnes valeurs, avec de très belles personnes qui travaillent dedans aussi. Et donc, nos réseaux, déjà, il y a notre site internet, capcorée.fr. On a aussi un voyage Hallyu qui s'appelle le pack Hallyu pour les voyages à la fois culturels et K-pop drama, donc qui est au mois d'août. Donc, c'est www.packhallyu.com, donc capcorée.fr et packhallyu.com. Et ensuite, on nous retrouve sur LinkedIn, du coup, pour ceux qui aimeraient voir les annonces de recrutement. Et,
ne dis pas, ne m'attire pas de concurrence.
Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. On est maintenant aussi sur TikTok et sur Pinterest. Donc, Cap Corée est partout, concrètement.
Ok, partout, clairement.
Et moi, personnellement, ça va être surtout Instagram et un petit peu ma page Facebook. Donc, sur Instagram, c'est... Meylusine, Meylusinee, je crois qu'il y a 2 E. Et sur Facebook, c'est Meylusine Guide Corée, qui devrait changer parce que, je suis pas vraiment guide à proprement parler, c'était le pseudo que j'avais utilisé à la création, mais maintenant plus vraiment. Et voilà, donc maintenant c'est principalement Facebook et Instagram, même si j'ai feu une chaîne YouTube qui est la pauvre et est un petit peu à l'abandon. Et où vous pouvez retrouver quelques vidéos sur la vie en Corée de quelques années. Voilà.
Ok, je mettrai tous ces liens en description. Merci
beaucoup. Sur Twitter aussi, pardon.
Sur Twitter aussi.
Ouais, sur okay. Twitter aussi. J'aime bien Twitter parce que Twitter, c'est le coin des râleurs et je suis une grosse râleuse. Donc voilà, si vous voulez me voir râler, si vous voulez pas de négativité, n'allez pas sur Twitter parce que je pense que c'est une grosse
c'est pas un bon endroit.
Réseau social.
Mais oui, non, faut pas. Si vous cherchez un endroit positif, n'allez pas sur Twitter.
Allez sur Instagram, il n'y a que des belles
voilà,
images
plutôt...
sur Instagram.
Voilà, vaut mieux. On va parler et on va passer sur des questions un peu plus... traditionnelles, les questions standards de Séoul Connect. Savoir, toi, un peu dans ta vie pro ou perso, quel moment t'ont marqué ? Est-ce que t'as des petites anecdotes que tu souhaites partager, soit positif ou négatif ?
Alors, je vais commencer par le négatif, comme ça, après, on est débarrassé, mais je pense que c'est important d'en parler parce que je vois de plus en plus de gens qui veulent faire leurs études en Corée. Et moi, en fait, mon master en Corée, je l'ai très mal vécu. J'en ai parlé avec pas mal de gens autour de moi qui ont fait le même style de démarche, qui ont fait soit leur licence, soit leur master en Corée, mais je parle en cursus régulier, hein, pas en échange, ni dans un cursus international, parce que je me rends compte en discutant que ceux qui viennent dans un master en anglais ou des choses comme ça ont pas les mêmes problématiques. Moi, j'étais dans un cursus entièrement en coréen. Donc mes camarades étaient toutes coréennes parce que j'étais dans une université pour femmes, hein, donc j'avais que des camarades filles et j'ai été vraiment très surprise négativement de l'univers académique en Corée. Alors il y a eu plusieurs choses vis-à-vis de ça, mais globalement il y a la hiérarchie qui fait que les élèves de master sont plus ou moins les esclaves des profs, notamment parce qu'on peut avoir une bourse en étant assistante officiellement de professeur. Et en fait assistant c'est larbin, ni plus ni moins, et on fait le job, une partie du job des profs. Donc on va surveiller les examens, on va corriger les copies, on va préparer les cours. Voilà, donc moi il y a des choses où j'étais exemptée parce que j'étais étrangère, donc notamment préparer les cours, ça n'a pas été le cas, mais par contre corriger les copies, j'ai dû le faire. Donc c'est quand même assez incroyable qu'on laisse ça à une, enfin déjà à une élève et encore plus à une élève étrangère. Je trouve ça, enfin voilà, c'est assez incroyable. Et de ce côté-là, j'ai des anecdotes où vraiment, c'est pas juste le prof me laisse corriger, il regarde derrière pour m'apprendre. C'est j'ai le premier prof dont j'ai été assistante, il m'a laissé corriger les copies et il est parti aux États-Unis voir sa famille le lendemain. Donc, il a jamais eu le paquet de copies que moi j'avais corrigé. J'ai dû rentrer les notes sur Internet et c'était plié. Et il faut savoir que le système coréen fait que les notes, en fait, il y a un pourcentage de A, qui est donc la meilleure note, un pourcentage de B et un pourcentage de C. Donc au niveau de l'ordinateur, s'il y a par exemple 20 personnes qui doivent avoir la note A et qu'il y a 21 personnes qui méritent la note A, et ben je vais quand même
dommage.
Devoir décider arbitrairement d'une personne qui aura B+ et qui n'aura pas A parce que l'ordinateur a décidé que c'était 20 personnes maximum qui auraient A. Donc c'est un système qui m'a vraiment beaucoup choquée. Et voilà, en étant assistante de prof, j'ai vécu des choses. Voilà, j'ai dû faire trois quarts d'heure de bus, une heure de bus un dimanche pour aller faire une photocopie à la fac parce que la prof dont j'étais assistante me l'a demandé alors qu'elle habitait à 10 minutes à pied de l'université. Moi, j'habitais à pratiquement une heure de bus. Et un dimanche, bah voilà, fallait que j'y aille et que je prépare ça pour le lundi, quoi. Donc, il m'est arrivé plein de choses comme ça, en plus du fait que suivre des études en coréen, c'est très compliqué, je vais pas comparer avec une licence, parce que de ce que j'ai entendu, la licence, c'était aussi très compliqué, mais en master, voilà, on a des examens aussi qui ressemblent à l'équivalent du bac, mais pour une fin de master, et là, on va avoir des examens anonymes, donc c'est vraiment comme le bac. Sauf qu'on n'a pas le droit au dictionnaire, on n'a pas le droit à du temps supplémentaire parce qu'on est étrangère. Donc on est censé écrire 6 pages A4 en une heure en coréen. Sinon, on ne valide pas en fait ces examens. Il y a 3 matières à passer et on ne peut pas être diplômé. Donc là, c'était vraiment le pire du pire. Franchement, à la fin de mon master et après avoir passé ces examens, j'avais plus du tout envie de rester en Corée, quoi. S'il n'y avait pas eu mon mari, je pense que je serais partie parce que ça m'a montré un gros aspect de la culture coréenne et de la société coréenne que je connaissais mais que je n'avais pas expérimenté encore. Et en fait, je pense que c'est vraiment un avant-goût du monde du travail parce qu'une fois qu'on est dans une entreprise coréenne, c'est ça, il y a toujours cette idée de hiérarchie. À partir du moment où tu es subalterne, et ben, tu vas faire tout ce que les autres n'ont pas envie de faire et en plus, on va te traiter vraiment comme un moins que rien. Donc voilà, c'était pas une anecdote. Enfin, il y a eu plusieurs anecdotes du coup négatives dans cette histoire, mais je vois de plus en plus de gens qui veulent faire leur licence ou leur master en Corée. Waouh, wow, accrochez-vous quoi. J'ai encore un témoignage très récent d'une personne qui actuellement est en master en Corée aussi, dans le milieu du tourisme. Et elle est en train de vivre exactement ce que moi j'ai vécu. Et je pense que voilà, c'est pas isolé quoi. Je pense que les gens qui ont vécu un super master en Corée, ils sont vraiment très peu. Quand c'est pas en anglais, je précise, parce que encore une fois, les témoignages sont très différents quand on suit le cursus en anglais ou en coréen. Mais voilà.
Toi, à l'heure actuelle, donc de ce que je comprends, dans ta boîte actuelle à Cap Corée, t'as pas trop du coup cette ambiance entreprise coréenne. C'est parce que vous êtes beaucoup d'étrangers là-bas ou?
Oui, on est une équipe majoritairement française et entièrement francophone. Donc, on est effectivement plus sur un système horizontal que vertical, même si on peut pas toujours avoir que de l'horizontal, évidemment.
Oui.
Mais, en tout cas, c'est une ambiance qui ressemble beaucoup plus à une ambiance de boîte française, ça c'est certain. Et moi aussi, en termes de... Enfin, ma position fait que, voilà, je travaille avec des personnes sous mes ordres, entre gros guillemets, même si j'aime pas trop dire ça, je sais pas trop comment le présenter autrement, mais...
C'est toi qui manages l'équipe, quoi.
Voilà, mais mon objectif, c'est que tout le monde se sente bien et que, voilà, je demande pas à ce qu'on aille me faire le café ou à ce qu'on aille me faire les photocopies, j'ai deux mains, deux pieds, je peux les faire, quoi.
Ouais, non, mais...
Voilà. Alors qu'en Corée, ce serait mal vu, en fait. Là, c'est une différence fondamentale. J'ai aussi donné des cours de français. J'ai donné des cours de français pour un avocat qui avait une position très, très élevée dans sa boîte. Et lui, il se faisait porter... alors déjà, il avait un chauffeur. Et puis, à la sortie de la voiture, il se faisait porter sa mallette pour aller jusqu'à son bureau. Il y avait quelqu'un qui portait sa mallette.
Ah, et, c'est lourd, les mallettes, hein.
Voilà, on en a déjà discuté. Il m'a dit oui, mais aux yeux de la société, si je porte ma mallette, je ne suis pas les directions entre guillemets de mon poste, quoi, parce que il faut que justement montrer que j'ai une position élevée et que et tout ce qui en ressort en fait. Donc c'est aussi c'est avant tout de l'image, parce qu'évidemment sa mallette, il peut la porter tout seul. Je pense que même lui, il était d'accord avec cette idée. C'est juste que socialement. C'est pas du tout accepté en fait. C'est à partir du moment où t'as une certaine position, voilà, c'est comme dans certains pays du nord de l'Europe, un premier ministre va se déplacer en vélo. En France, c'est pas encore les mœurs, quoi. Même s'il y a une partie des Français qui aimerait que les ministres se déplacent en vélo, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord pour dire que non, une certaine position mérite une certaine sécurité, un certain prestige aussi, et donc il faut se déplacer en voiture, avec chauffeur, etc. Voilà, là, je pense que... Mais en Corée, ça, c'est vraiment exacerbé de ouf, pour parler vulgairement. Il y a vraiment un gros travail d'image qui fait qu'à partir du moment où on a une certaine position, il faut agir comme tel, quoi.
Ouais. Bon, après, nos ministres français sont dans des Renault et des Dacia, c'est pas le grand prestige. Mais non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et puis la Corée, c'est aussi très... Enfin, c'est ça, c'est le pays de l'image, quoi. Enfin,
on va pas ouais, complètement, les apparences.
Voilà, on va pas parler du cliché très, très, très trop réel des chirurgies plastiques à Gangnam. Parce que l'exemple est beaucoup trop facile, on va pas se mettre sur ce
sujet. Ouais, mais c'est très réel, hein, et on le voit maintenant. Enfin, moi, ça m'avait choqué, mais c'est plus rare du tout de voir des parents offrir comme résultat du bac une chirurgie esthétique à leur enfant, parce que, en fait, ça fait partie de ce qu'on dit en Corée, un petit peu tous les critères qu'il faut avoir pour réussir à obtenir un travail à la sortie de ses études. On check plusieurs choses, donc il faut avoir un bon niveau en anglais, il faut avoir un bon niveau en plein de matières, etc. Mais maintenant, on dit les nouvelles matières, c'est aussi l'apparence, avoir une apparence soignée, savoir s'habiller, avoir un visage agréable, etc. Et du coup, ça passe par la case chirurgie, quoi. Maintenant, ça fait partie des choses où on se dit, pour trouver un travail, il est indispensable de passer par la case chirurgie. Pour une bonne partie de la population coréenne, c'est totalement accepté et c'est rentré complètement dans les mœurs, quoi. Je trouve ça incroyable, mais ça fait partie de la société aussi, quoi. Les apparences, c'est quelque chose d'extrêmement important ici, hein. C'est une pression énorme.
Ah, je suis bien d'accord. Et c'est bien l'une des raisons qui parfois me fait dire non, la Corée, vraiment. Est-ce que t'as, avant de passer justement à ces questions de ce qui te ferait partir ou ce qui te fait rester en Corée. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, tes anecdotes positives, parce que tu as voulu commencer avec le négatif et on est
après. Oui, il y a quand même une bonne dose de positif, sinon je ne serais plus là, hein, évidemment. Alors, je n'ai pas réussi à trouver une anecdote particulièrement positive, mais globalement, les gens, notamment en dehors de Séoul, parce que malheureusement, je vais peut-être me faire taper dessus, mais je trouve que Séoul ressemble beaucoup à Paris. Les gens ont tendance à tracer leur route et à pas trop regarder ce qui se passe autour. Alors que quand on sort de la capitale, on a des gens qui sont très accessibles, très gentils, très reconnaissants au pays, entre guillemets, historiquement riche, de s'intéresser à leur petit pays qui était historiquement pauvre, qui a dû se battre, etc., et qui était complètement inconnu au bataillon des grandes puissances mondiales et qui maintenant acquiert enfin une certaine reconnaissance. Donc, ils sont à la fois très heureux et très reconnaissants aux étrangers de pays, notamment européens, de visiter la Corée. Et du coup, ça donne des conversations et des expériences géniales, quoi. Donc, en campagne, je me fais souvent offrir des choses à la petite supérette du coin. On va m'offrir une sucette ou un truc en plus, juste pour me dire merci d'être venu en Corée, merci d'apprendre le coréen, parce qu'en plus, ils sont très fiers que je parle coréen en général. Donc, c'est une expérience qui est vraiment géniale. Et on m'a aidé dans des situations où je me suis dit, en France, ça aurait été peut-être beaucoup plus compliqué. Je pensais notamment à une fois où je me suis retrouvée dans un bus. J'étais allée à un événement où je voulais vraiment aller, bon, de K-pop, désolée, mais... Et en fait, c'était la fin du mois, j'avais plus du tout d'argent, j'attendais le mois suivant pour avoir notamment mon salaire, et j'avais pile poil ce qu'il fallait sur ma carte de transport pour faire l'aller-retour en bus. Donc je me suis dit, bon bah nickel quoi, je fais l'aller-retour. Et c'était dans la ville de Paju, donc qui est en banlieue de Séoul. C'était en hiver, j'étais malade, j'avais plus de voix. Et en fait, sur le retour, je bip ma carte et ma carte ne passe pas. Et j'ai dit, c'est bizarre, il y a un problème avec la machine, parce que j'avais légèrement plus que le montant qu'il fallait pour faire cette allée. Et ma carte ne passe pas. Alors, j'essaie d'expliquer, mais déjà, j'avais pas un niveau de coréen exceptionnel à ce moment-là. Et puis, en plus, j'avais plus de voix. Donc, c'était vraiment compliqué. Et il y avait un couple de coréens qui était assis à l'avant du bus. Et il y a eu un moment de flottement parce que je me suis dit, le chauffeur va me faire descendre. On était en pleine nuit, il avait déjà démarré, donc on était vraiment entre Séoul et Paju, au milieu de nulle part. Il faisait très froid parce que c'est l'hiver coréen. Je me suis dit, il va me laisser descendre ici, je vais me retrouver en race campagne à devoir rentrer à Séoul à pied en pleine nuit, quoi. Donc j'ai eu un petit moment de panique quand même. Et le couple qui était à l'avant du bus, la fille s'est levée tout de suite et elle a proposé sa carte. Et en fait, sa carte n'est pas passée non plus. vraiment pas de chance, et du coup elle a mis un grand coup de coude dans les côtes de son copain qui du coup a tendu sa carte et m'a payé le trajet pour que je puisse rentrer à Séoul. Et en fait, ce genre d'anecdote, ça m'est arrivé relativement souvent. Donc on m'a aussi aidé une fois où j'avais oublié mon téléphone dans un taxi à Jeju. Je me suis pointée au Starbucks en panique parce que mon téléphone était tout neuf et j'ai dit, j'ai oublié mon téléphone dans le taxi. Et c'est eux qui ont téléphoné à la centrale de téléphone de Kakao Taxi en donnant mes infos pour essayer de retrouver le chauffeur de taxi, qui finalement, du coup, est revenu, m'a rendu mon téléphone, enfin, vraiment trop gentil, quoi. Et voilà, ce genre d'anecdote, en fait, ça m'est arrivé vraiment plein de fois, et les gens sont souvent vraiment très gentils et vraiment prêts à aider, même des inconnus, et de bonne foi, et tout ça, là où en France, on va avoir plus de méfiance, je pense, parce que malheureusement, il y a un petit peu plus d'arnaques et de choses comme ça. En Corée, ils ont tendance à faire confiance, et ce qui fait que voilà, ça donne de super souvenirs.
Je suis d'accord. J'ai eu quasiment la même anecdote que toi sur le bus.
Ah ouais.
en début avril, quasiment pareil. J'avais plus de carte, puis on a commencé à me proposer à payer. Bon, j'avais du cash pour payer, mais voilà, quasiment la même.
Je me suis dit, en France, bon, après, honnêtement, je suis blanche, jeune, entre guillemets, je présente bien, donc je pense que j'aurai moins de difficultés que peut-être quelqu'un d'autre. Mais bon, je me suis dit, en France, quand même, avant que quelqu'un t'aide, te donne de l'argent pour le bus, faut quand même y aller, quoi.
Ouais, oui. Oui, clairement. Avant que quelqu'un appelle le bus, comme tu dis, je suis assez d'accord. Faut se lever tôt.
Voilà.
Marcher.
Après, évidemment, c'est pas les mêmes contextes, etc. Enfin voilà, je peux comprendre la méfiance qu'il y a, mais c'est vrai que c'est très agréable en Corée de voir que justement il y a peu ou pas cette méfiance là, quoi.
Ok, super. Bah, merci pour ces anecdotes. Toi, l'annonce du fait que tu partes en Corée pour le PVT et après annoncer à ta famille que au final tu vas rester là-bas, comment ça s'est passé? Parce que c'est un point qui est quand même important, pas facile non plus à prendre, mais et important, et pas facile à accepter non plus pour la famille. Comment ça s'est passé, toi, de ton côté?
Alors, c'était particulier parce que je parlais pas très bien anglais, même pas du tout. Je parlais beaucoup mieux espagnol, donc voilà. Je parlais pas coréen évidemment. Donc déjà, le premier voyage en Corée, mes parents étaient un peu stressés, même si on a déjà voyagé en famille. Je partais toute seule à l'étranger avec mon anglais pourri, donc voilà, c'était déjà un petit peu stressant pour eux. Bon, après tout s'est bien passé, ils me suivaient à la trace avec les réseaux sociaux et tout pour être sûr qu'il m'arrivait rien. Et quand je suis revenue et que je leur ai annoncé que je voulais partir en PVT, ils étaient persuadés que ça allait passer. Donc voilà. Donc déjà ils ont été un peu surpris que le projet se concrétise et que je parte réellement en PVT. Et ensuite, ma mère était persuadée que je reviendrais en France après maximum 3 mois de PVT. Bon, maman, je suis désolée, mais ça fait 10 ans maintenant, je pense que tu étais un petit peu à côté de la plaque, légèrement. Voilà, donc bah, évidemment, ils sont un peu tristes, hein, parce que ça fait quand même plus de 8 000 km qui nous séparent, encore plus maintenant qu'ils ont un petit-fils, donc c'est un peu difficile émotionnellement, d'autant plus qu'avec le Covid, c'était vraiment pas simple. Maintenant, on espère se voir régulièrement et... J'ai envie de dire que ça rapproche aussi l'éloignement parce qu'en fait, on s'appelle quasiment une fois par semaine minimum. Du fait qu'on est loin, bah, on programme en fait les réunions de famille, les discussions, etc. Et ce qui fait qu'on s'appelle, oui, au moins une fois par semaine. Alors que quand on habitait à 40 km les uns des autres, bah, on s'appelait même pas une fois par mois, quoi. Donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que ouais, l'éloignement peut rapprocher, en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour nous avec ma famille.
Et en hors Covid, évidemment, tu réussissais à rentrer, je sais pas, tous les ans ou
Ouais, je rentrais tous les ans à Noël.
Très bien.
Voilà.
Super. Et du coup, par rapport à ça, ça répond un peu à la question précédente, ça fait une belle pro-transition. Selon tes expériences, pour toi, est-ce que tu vois vraiment des grosses différences entre la France et la Corée, ou alors des points communs auxquels on ne s'attend pas?
Alors les grosses différences, je pense que c'est tout le système, on va dire, social qui va être extrêmement différent parce que en France, on part du principe que la vie de famille et les loisirs, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante qui donne envie de se lever le matin, quoi. Donc tout est organisé vis-à-vis de ça pour laisser du temps en dehors du travail. Alors que en Corée, on va partir du principe que le travail, c'est la première chose, puisque justement, c'est un pays qui a été très pauvre, qui a été même enfin, qui a vécu la famine, etc., à la sortie de la guerre, et qui s'est relevé grâce au travail. Donc, le travail, c'est la chose la plus importante. C'est en train de changer avec la nouvelle génération. Mais bon, quand je vois la génération de mes beaux-parents, je vois que le travail, c'est quelque chose, enfin, c'est ce qui les fait se lever le matin, parce qu'ils savent que c'est ça qui fait avancer le pays, leur famille, etc. C'est la chose la plus importante. Donc,
Ouais, surtout
vis-à-vis de
ils ont
ça.
connu cette période en plus, quoi. Surtout.
Oui, ils ont connu cette période, hein. Mon mari me racontait que sa grand-mère allait dans la montagne mendier pour pouvoir nourrir ses enfants. Donc, ils ont connu ça, quoi. C'est réel et c'est pas très vieux. Donc, il y a une pression vis-à-vis du travail qui fait que mes beaux-parents ne pourraient pas profiter d'une journée ou de 2 journées. En vraies vacances, quoi. Plage, transat, ils connaissent pas. Et pour eux, c'est stressant parce qu'ils se disent, cette période-là, ils peuvent pas travailler, ils risquent de perdre des clients. On va aller au restaurant alors que ma belle-mère pourrait cuisiner et que ça coûterait pas d'argent et qu'elle, ça la dérange pas. Elle fait ça depuis qu'elle est née, donc ça lui paraît évident et c'est pas du tout une corvée. Voilà, c'est un système de pensée qui est complètement différent en fait. Donc vis-à-vis de ça, oui, et c'est ça aussi qui fait que la Corée va être extrêmement rapide sur plein de points. Donc, moi, c'est des points que j'apprécie. Quand on va à la banque demander une carte bancaire, ça prend 30 secondes de montre en main. Voilà, en France, il faut 3 semaines. Quand on va demander un passeport, mon mari, il a son passeport en 3 jours. En France, selon les périodes, c'est entre 1 et 2 mois, je crois, pour avoir son passeport. Enfin, c'est pas du tout les mêmes délais, quoi.
Pas du tout. 2 mois, c'est pour avoir le rendez-vous pour demander le passeport.
Ouais, voilà.
Et après,
Donc,
tu leur tends 2 mois.
C'est ça. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que en France, on va être globalement sur les 35 heures, du 9h à 17h, du temps le soir en famille, du temps le week-end. Là où en Corée, il faut que la tâche soit terminée pour qu'on puisse rentrer à la maison. Donc, les loisirs et la vie de famille en pâtissent forcément. Donc, à la fois, on va apprécier ce confort de rapidité des services et de services publics. Moi, je le trouve extrêmement important et extrêmement agréable tout ce qui est côté santé, puisque en Corée, quand on a un problème de santé, on va à l'hôpital et on est traité tout de suite. Là où en France, ça peut être extrêmement compliqué. Quand on entend des gens qui ont attendu 24 heures aux urgences, jamais ça arriverait en Corée. On attendrait 10 minutes maximum. Donc ça, c'est un truc qui, par contre, me hérisse un peu. Après, tout ce qui est rapidité de service, etc., bon, voilà, c'est extrêmement appréciable en Corée, mais c'est pas sans conséquences sur la société de manière générale. Voilà. Donc ça, c'est radicalement différent, je pense, parce que les systèmes de pensée sont différents, que les expériences aussi historiques sont différentes, et que du coup, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années, puisque la nouvelle génération coréenne n'a pas connu la guerre et n'a pas connu les conséquences de celle-ci, donc qui cherche des jours de congé, à voyager, à profiter de la vie, avec un très bon salaire, donc c'est pas toujours très compatible. on verra ce que ça donne. Voilà. Mais donc ça, c'est la différence vraiment radicale, je dirais, entre les deux pays. Et je pense que d'ailleurs, ils gagneraient vraiment à faire une espèce de mix, parce que bah, en France, par exemple, je trouve ça vraiment bizarre qu'on dise aux gens qui veulent travailler le dimanche, bah non, tu ne travailles pas le dimanche, c'est imposé. Non, tu n'as pas le droit de travailler le dimanche, c'est comme ça, c'est toute la société qui est bâtie comme ça, donc il est hors de question que tu travailles le dimanche, ou alors c'est sous ces conditions-là, blablabla. Et au contraire, en Corée, t'as pas le choix, quoi. C'est si on te dit que tu vas travailler dimanche, tu vas travailler dimanche, point. Donc les deux, à faire un mix et à trouver des compromis, ce serait évidemment le pays idéal, je pense.
Oui, je suis assez d'accord. On a deux extrêmes. On a deux extrêmes dans ces cultures. Je suis assez d'accord avec toi sur ces points-là. La société coréenne française a évolué depuis les 10 ans que t'es parti, la société coréenne aussi. Mais si tu te repositionnes un peu à il y a 10 ans, mais que tu calques la société coréenne de maintenant, un peu étrange, mais qu'est-ce que t'aurais aimé toi savoir avant d'arriver en Corée, quelque chose qu'on te dise, soit un préjugé qui ne soit pas vrai, ou quelque chose que tu ne savais pas, mais qui t'aurait aidé si tu le savais avant de venir en Corée?
En fait, ça va être un truc un peu plus... Enfin, pas philosophique, je sais pas. Je pense que ce que je vais dire peut être mal interprété, donc c'est un peu compliqué à dire. Je veux pas qu'on me tape dessus. Mais ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que y a des mauvaises personnes partout, et il y a des bonnes personnes partout, que ce soit en France ou en Corée. Mmh. Et que il faut toujours garder l'esprit ouvert, pour pas se faire avoir, parce que je me suis fait aussi avoir en Corée parfois. Et surtout, la place d'étranger, c'est très compliqué, parce que à la fois, bon, ça c'est encore des débats politiques, hein, malheureusement, mais on est étranger, mais on reste une personne, et c'est pas parce qu'on est étranger qu'on est forcément en tort dans certaines situations. Et que, évidemment, il faut se remettre en question, mais il faut aussi savoir assumer qui on est, nos actions, et pas hésiter, entre guillemets, à se rebeller ou à revendiquer quand il le faut, quand on tombe face à une situation injuste. Et là-dessus, la société coréenne est en train de changer aussi. J'ose espérer que la loi anti-discrimination va passer, mais j'ai déjà été dans des situations où on a dû aller... à la police, etc. Et globalement, ça s'est toujours bien passé, parce que la police a su rester neutre et a su se positionner en fait face à la victime, qui était moi ou mes amis. Donc ça, je pense que c'est encore un préjugé, que à partir du moment où on est étranger, on doit surtout pas faire de vagues dans le pays, on doit surtout pas entre guillemets faire de mauvaises actions, évidemment, mais on doit pas se mettre en avant, on doit se faire discret, et on doit remercier globalement le pays de nous accueillir. Je suis pas d'accord, en fait. Enfin, ça a été un long processus, parce qu'évidemment, au début, je voulais surtout pas faire de vagues, et j'étais dans cette position un petit peu inférieure du fait que j'étais étrangère. Et maintenant, bon, ça doit aider aussi d'être mariée ici, de savoir que je suis installée sur le long terme, d'avoir un enfant qui a les deux nationalités. Mais j'aimerais dire qu'une situation injuste, elle est injuste, et c'est pas parce qu'on est étranger qu'on n'a pas le droit de s'offusquer et de déclarer ça publiquement. Je pense aussi que la société coréenne, c'est une société qui, fort heureusement, va évoluer. Et sans partir sur les polémiques du coloniste blanc qui veut imposer sa manière de faire ou sa culture, j'ose espérer que la Corée avance sur les droits humains, sur les droits de l'homme, sur les droits de la femme, qui est un très très gros sujet. Et on peut pas dire c'est la société coréenne, ils sont en retard parce qu'ils sortent de la guerre et que du coup il faut attendre que ça se fasse, mais laissez-leur le temps et ne dites rien en attendant. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il faut dire les choses. Ça vient aussi de beaucoup de discussions avec mon mari parce que pour le coup, lui, il a été élevé dans cette société et des fois, quand je lui ouvre les yeux sur certains sujets, enfin, désolé, c'est vrai, lui-même me dit que je lui ai ouvert les yeux. Hein. Je veux pas paraître prétentieuse en disant ça. Lui aussi m'a ouvert les yeux sur d'autres choses, évidemment, mais là, sur le coup, sur des gros sujets comme ça, c'est plutôt moi, en venant de France, qui va lui dire « Attends, tu te rends compte que ça, c'est inadmissible ?» Et sur le coup, il va dire « Bah, pourquoi ? Je comprends pas. » Et puis, 3 jours après, il va me dire « Non, mais en fait, t'as raison. » En y réfléchissant et en me mettant à la place de ces personnes, oui, c'est inadmissible, quoi. Les droits de la communauté LGBT, la place des femmes, voilà, il y a plein de sujets comme ça où la Corée a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est pas parce qu'on est étranger qu'on n'a pas le droit de dire nos expériences et d'amener notre voix sur ces sujets-là. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les Français qui habitent en France. Regardez ce qui se fait à l'étranger, parce qu'il y a plein de pays sur plein de sujets qui sont beaucoup plus en avance que les Français. Et on a tous à apprendre des autres cultures et des autres sociétés. Et d'ailleurs, la France a à apprendre de la Corée aussi sur plein d'autres sujets. Mais voilà, il y a cette espèce de position illégitime parce qu'on est étranger dans un pays étranger. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les débats Facebook. C'est la Corée, donc soit tu l'acceptes, soit tu la quittes. Non, ça fonctionne pas comme ça. Le monde n'est pas blanc ou noir, c'est gris. Et si on a envie de le tirer vers le blanc et d'essayer d'apporter notre voix pour que ça passe sur le blanc, ou en tout cas sur ce qui, nous, on estime être le blanc, eh ben, on en a le droit. Voilà.
Ok. Très bon. non, j'ai dit très bon, pas très long. J'ai dit très bon. Très bon témoignage. Je sais pas comment. Non, pas témoignage, ouais. Mais point de vue.
Voilà, partagé. Mais en fait, je le dis parce que c'est vraiment par rapport à mon cheminement en 10 ans. Je suis passée de cette position de non, il faut surtout rien dire parce que c'est pas notre pays, à non, mais c'est pas parce que c'est pas notre pays qu'on n'a pas le droit de. Voilà. De monter au créneau sur les sujets qui nous paraissent importants. Voilà.
Très bien. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, tu peux. Après, faut juste le faire intelligemment, quoi. On va dire.
Oui, bien sûr. Ah ben, c'est sûr. On va pas rentrer dans l'arbre en disant c'est inadmissible. Oui, voilà. Non, effectivement, il y a un cheminement à faire, mais je trouve ça toujours intéressant de mettre sa pierre à l'édifice du cheminement, justement, plutôt que de se taire et d'attendre que ça se passe tout seul.
Et du coup, ça fait une belle transition, voire même réponse à la question suivante, qui était un peu de savoir, toi, personnellement, comment se passe ta vie en Corée sur justement toute cette partie nouvelle culture, nouvelles coutumes. Comment s'est passé un peu ton intégration, la vie de ton enfant, comment est-ce que tu vois un peu tous ces aspects-là?
Ça aussi, c'est... Désolée, j'ai tendance à beaucoup parler, je sens que ça va durer 2 heures. Alors mon intégration, ça c'est au niveau personnel, au niveau de ma belle famille, ça s'est extrêmement bien passé. Mon mari, comme mes beaux-parents, sont des gens qui viennent d'un milieu très modeste, qui n'ont pas pu beaucoup voyager, qui parlent pas anglais. Et pourtant qui ont une très très grande ouverture d'esprit, donc c'est vraiment là-dessus j'ai énormément de chance. C'est des gens très généreux qui font tout pour que ça se passe bien. Il y a de super échanges. Ma belle-mère est adorable, elle va faire des plats non épicés et sans fruits de mer parce qu'elle sait que j'aime pas ça. Vraiment non, à ce niveau-là j'ai aucun souci. Après, au niveau de l'intégration de la société coréenne de manière générale, je sens que en tant qu'étrangère et en tant que femme, c'est toujours plus compliqué. Je vais pas être respectée comme je le devrais. malgré que ça fasse 10 ans que je sois là, malgré que j'ai un certain niveau de coréen, je ne serai jamais coréenne, et du coup, il y a plein de choses que... Bah, où justement, on va me demander de me taire parce que je suis pas coréenne, et non, maintenant, j'ai décidé que je ne me tairai plus. Donc là-dessus, je pense que c'est une très très longue bataille, malheureusement, et je pense pas qu'il y ait de gagnants, et je pense que c'est... Là encore, il faut vivre avec si on décide de continuer à vivre ici, tout simplement. Et aussi au sujet de la vie de mon enfant, ben la société coréenne, toutes ces pressions font que j'espère au moins que pour son éducation, on pourra financer l'école française, tout simplement. Parce que là, pour la maternelle, la crèche, la maternelle, a priori, c'est vraiment génial, les crèches maternelles coréennes. En tout cas, nous, on est super contents de notre crèche coréenne. Mon fils, il fait plein d'activités. Les assistantes maternelles, elles préparent énormément de choses tous les jours. Vraiment, on est stupéfaits. Mais ma famille et ma belle-famille aussi sont stupéfaits de voir tout ce qui est fait pour les enfants, même en très bas âge. Donc, voilà. Mais par contre, pour les niveaux supérieurs, pour le primaire, le collège, le lycée, on sait que la pression scolaire coréenne, c'est un énorme sujet. Et nous, on souhaite pas mettre notre enfant là-dedans.
Ok.
Tout simplement. Donc, tout n'est pas encore décidé, mais...
Ouais, ça serait un point qui pourrait vous faire quitter la Corée, ça, par exemple, ou...
Alors c'est un sujet aussi, moi j'aimerais bouger depuis un certain temps déjà, parce que la Corée, bah ça va, mais de toute façon j'aimerais bien vivre un petit peu ailleurs, voir ce qui se passe justement dans d'autres pays, sans dire que j'ai fait le tour de la Corée, parce qu'évidemment c'est très compliqué d'en faire entièrement le tour. C'est vrai que j'ai un peu vu et vécu ce que j'avais envie de vivre, et du coup je suis pas contre l'idée d'aller un petit peu ailleurs. Par contre mon mari qui... parle pas anglais, qui a jamais eu vraiment d'expérience à l'étranger, pour lui c'est un cheminement un peu plus compliqué, un peu plus
moins naturel,
un peu plus long. Voilà, donc avant le Covid on s'était dit on va beaucoup voyager, comme ça on verra ce que ça donne de voyager ensemble, de vivre un petit peu ailleurs, etc. Et puis on verra ce qu'on fait. Et puis bon, il y a eu le Covid, donc ça s'est pas vraiment concrétisé. On va voir ce qui se passe dans les prochaines années. Il est pas complètement fermé à l'idée, mais c'est pas naturel pour lui de penser à vivre ailleurs, dans la mesure où il vient pas du tout d'un domaine, d'un monde international, quoi.
Ok. Ouais. Tu parlais des crèches, pour juste rebondir par rapport à ça. Ça n'a pas été compliqué d'en trouver ? Parce que je sais que pendant un temps, il y avait pas mal de messages qui traînaient, j'avais pas mal de témoignages. On expliquait que c'était compliqué d'avoir des crèches.
Ça reste beaucoup moins compliqué qu'en France, déjà, d'avoir une crèche. Parce que, en France, je crois qu'il y a une place pour 4 enfants, un truc comme ça. En Corée, on n'est pas à ce point-là. C'est vrai que ça peut être compliqué d'avoir une crèche, mais globalement, les familles qui cherchent une crèche, ils arrivent à en avoir une quand même dans les 6 mois après la naissance. Après, à Séoul, oui, c'est plus compliqué qu'ailleurs. Nous, déjà, on est en banlieue, donc c'est un peu plus facile. On est une famille multiculturelle, donc on est prioritaire. Et en plus on travaillait tous les deux, donc on était doublement prioritaire. Et en plus c'était pendant le Covid, et du coup il y avait plein de familles qui mettaient pas leurs enfants à la crèche par peur, donc en fait nous il y avait des places dispo, quoi. On a vraiment pas eu de soucis du tout pour trouver une crèche. On a même pu comparer, enfin en fait on a fait une première crèche où on n'était pas satisfait, du coup après on a visité je crois 8 crèches, un truc comme ça, et il y avait de la place dans les 8, quoi. Donc c'était vraiment pas un souci pour nous.
Ok. D'accord, bah, très bien. Ok, je pensais que c'était plus compliqué que ça, de ce que je lisais il y a...
Bah, c'est un des rares,
quelques temps quand même.
Un des rares avantages d'être une famille multiculturelle, donc mixte, c'est qu'on est prioritaire au niveau des crèches.
D'accord, donc, étrange.
Oui, franchement, du point de vue de la société coréenne, je trouve ça étrange aussi. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a énormément de mariages avec des mariages arrangés avec des filles d'Asie du Sud-Est pour essayer de remonter le taux de natalité. Le gouvernement sponsorise des agences matrimoniales pour trouver des femmes en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, pour les faire venir en Corée pour faire des bébés, parce que taux de natalité vraiment en berne en Corée du Sud. Donc ils mettent en place quand même pas mal de choses en termes de social pour les familles multiculturelles. Nous aussi on est dans un logement équivalent au logement social, qui a rien à voir avec les logements sociaux en France, parce qu'on est dans un super immeuble avec un appartement de 85 mètres carrés, qui est pas du tout en mauvais état, avec une super vue sur la montagne. Enfin, vraiment, il y a largement pire en termes de logement social. Et on a eu aussi ce logement, je pense, parce qu'on était prioritaire en tant que famille multiculturelle.
Ok.
Donc Qu'en fait, c'est un système de points avec une espèce de loterie, quoi. Et en fait, les familles multiculturelles sont prioritaires. Donc après, selon ton nombre d'enfants, selon ton nombre de revenus, ton niveau revenu. De revenus, ta localisation aussi, parce que il faut, si tu cherches dans la ville ou dans le quartier où tu habites depuis quelques années, tu gagnes des points. Et du coup, au bout d'un moment, ça te fait un certain total de points. Et selon ton total de points, tu vas être plus ou moins prioritaire pour les logements sociaux. Voilà. Mais en tant que famille multiculturelle, en fait, tous ceux de mon entourage qui ont fait ce système de logement social, ils ont été sélectionnés, en fait. Alors que chez les Coréens, c'est vraiment exceptionnel d'être sélectionné. Et voilà. Donc, famille multiculturelle, on a quand même de sacrés avantages de ce côté-là.
Ok, découverte totale. Pour moi, j'étais pas au courant. Et je pense que je ne suis pas le seul. Déjà, certains vont découvrir qu'il y a des logements sociaux en Corée.
Ouais, franchement, quand on est marié à un Coréen, une Coréenne, je vous dis, renseignez-vous, parce que ce soit pour la location ou pour l'achat, les logements du gouvernement, c'est hyper intéressant, mais vraiment hyper intéressant. Donc, intéressez-vous-y. Ça vaut le coup de tenter la loterie, même si malheureusement, vous n'êtes pas sélectionné. Mais je vous dis, nous, on a eu beaucoup de chance, parce que tous les logements qu'on a tentés, on était sélectionnés, on a dû en refuser. Donc, il y a de quoi faire.
Ok, tu étais reine du choix. Super. Et donc, du coup, je t'ai demandé un peu, les points qui te feraient. Avant de passer à l'action après, est-ce que t'as d'autres choses que tu veux dire un peu sur cet aspect personnel, la belle famille, la vie de l'enfant ou...
Non, je pense que j'ai fait le tour.
T'as fait le tour ?
Ouais, okay. Ouais.
Et donc, du coup, on a, avec cette question, un peu entamé l'idée de, des points qui pourraient te donner envie de partir. T'as dit, de toute façon, toi, t'as envie de voir un peu d'autres pays. Est-ce qu'il y a des points qui te font plutôt dire non, en fait, je vais quand même rester en Corée, ça va être plus simple pour continuer de vivre sereinement, pas s'ajouter du stress ou je ne sais pas.
Alors, avoir un enfant, ça change énormément ta perspective des choses, on va pas se le cacher. Les points qui donnent envie de rester, c'est comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tout le système de santé. Voilà, concrètement, en pleine période Covid, j'ai décidé d'aller l'été dernier en France avec mon fils pour que ma famille puisse le rencontrer, parce que ça avait toujours pas été fait, malheureusement. Et je me suis posé la question bête de si mon fils attrape le Covid, comment ça se passe en France, tu vois. Et j'avais très peur. Je me suis dit, à l'hôpital, il va y avoir de l'attente, potentiellement. Je sais pas s'il va pouvoir être soigné tout de suite. Enfin, honnêtement, j'ai fait très attention pendant ce voyage en France, parce que j'avais très peur que mon fils ait un problème de santé et qu'il puisse pas être soigné correctement en France. Donc après, j'ai la très grande chance de jamais avoir eu de gros soucis de santé, de jamais avoir dû me confronter aux urgences en France, etc. Donc je vais parler vraiment sans expérience sur le sujet, mais de ce que j'ai entendu, ça reste quand même très compliqué quand t'as un problème urgent de santé. Je vois mes parents qui ont du mal à avoir un rendez-vous chez des spécialistes, il faut 6 mois à 1 an d'attente pour des examens du cœur, c'est des choses qui me paraissent vraiment aberrantes, sachant que la santé, c'est quand même ce qui te fait vivre, c'est le minimum, c'est le truc le plus important qu'il puisse y avoir sur cette planète. Et donc, le système de santé en Corée étant exceptionnel, c'est vrai que j'ai absolument pas cette peur-là, et notamment vis-à-vis de mon fils, je me dis, s'il a le moindre problème, il peut être soigné immédiatement, et c'est quand même hyper important. Et les points qui me donneraient envie de partir, c'est toute cette pression sociale, que ce soit au niveau scolaire pour mon fils, mais aussi cette pression, cette position de la femme toujours, parce que professionnellement, tu te dis que tu vas être limitée à un moment parce que t'es une femme, tout simplement, et que tu vas pas être prise au sérieux comme le seraient d'autres personnes, un homme coréen, basique, entre guillemets. Mais vis-à-vis de mon fils, c'est aussi tout l'aspect écologique, puisque la Corée, là-dessus, a un sacré retard aussi. La pollution, c'est incroyable, même si ils nous promettent que d'ici quelques années, ça va s'améliorer vis-à-vis des nouvelles usines à charbon avec de nouveaux filtres ou je sais pas quoi, blablabla, que la Chine aussi va s'adapter et que du coup il y aura moins de pollution qui vient de Chine, ce genre de choses. Mais tout ce qui est écologie en Corée, malgré ce qu'on peut imaginer avec leur tri sélectif, etc., c'est quand même très très en retard, et trop en retard par rapport à l'urgence, je pense, qui nous guette. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète, et vivre dans un pays où c'est pas un sujet important, ça me dérange et ça m'inquiète, en fait, encore plus vis-à-vis de mon enfant, évidemment. Donc c'est les deux sujets qui me donneraient vraiment envie de partir. mais dans les points qui donnent envie de rester, oui, il y a donc tout ce qui est santé et tout ce qui est rapidité des services. Je pense que je pourrais très clairement être phobique administrative en France, parce que me dire qu'il faut prendre une demi-journée de RTT pour pouvoir faire n'importe quoi niveau papier administratif, ça me fout des angoisses pas possibles. Et en Corée, savoir que le moindre truc, je vais au bureau concerné et mon problème va être réglé entre 5 et 15 minutes. Bon, ça c'est un point qui me donne vraiment envie de rester ici, parce que je me dis et ça par contre c'est un pays exceptionnel je pense dans le monde pour ça, parce que je pense que sur les trois quarts de la planète, si on a besoin de quelque chose d'administratif, ça va tout de suite être très compliqué et très lent. Donc là-dessus, ça donne vraiment envie de rester ici quand même.
Ouais, non, c'est sûr. Très bien, très réponse complète, c'est intéressant. Pour terminer, petite question que j'aime poser, j'ai pas encore eu de réponse escomptée, mais je connais des personnes qui disent non à cette question, mais ils refusent de faire Seoul Connect pour l'instant, ils sont pas intéressés. Est-ce que pour toi, pour s'installer sur du moyen long terme en Corée, la maîtrise du coréen est nécessaire?
Ah oui, je pense que oui. Ça, c'est pas un pays anglophone. C'est un pays très patriote, et à partir du moment où on parle, et c'est pas un pays très international, parce que je pense par exemple à la Suisse où on peut parler n'importe quelle langue, on se débrouillera, enfin entre guillemets. Non, en Corée, il faut parler coréen, je pense, pour avoir de belles perspectives d'avenir. Après, c'est comme en anglais, l'accent français peut faire son effet, quoi. Mais il faut parler coréen, ne serait-ce que pour pas se faire avoir, pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe, pour pouvoir comprendre aussi les subtilités de la culture, qui peuvent être importants, y compris dans le monde professionnel. Oui, c'est indispensable de parler coréen et de s'intéresser à tous les aspects sociaux qui vont régir tous les domaines où on va être intégré, quoi.
Ok. Donc un gros oui de ton côté. J'aurai quelqu'un un jour qui répondra non. Un jour, ils vont accepter. Pour l'instant, ils me le disent à moi-même quand je les vois, quand je suis allé en Corée, que je les ai rencontrés. Mais, ils ne sont pas encore passés sur le podcast. Un jour, peut-être. un petit point actualité, peut-être. Je ne sais pas si tu veux le faire. Les deux derniers n'ont pas souhaité en parler. Mais sur l'actualité coréenne, s'il y a quelque chose qui t'a marqué dans le sens... soit parce que c'était impacté personnellement, alors bon, on a déjà fait un grand laïus sur la rouverture des frontières, donc peut-être pas reparler de ça, mais ouais, c'est quelque chose qui t'a marqué, ou que, toi personnellement, ou qui montre justement une grosse différence culturelle entre la France et la Corée dans l'actualité récente sur, je sais pas, les deux, trois derniers mois, on va dire.
Alors moi j'adore la politique, je suis okay. Voilà, j'adore débattre, j'adore échanger des idées même quand c'est pas du tout du même bord que moi. Donc non, j'ai aucun problème à répondre à cette question, même si je pense que ça fera pas l'unanimité évidemment. Mais je dirais que ce qui a vraiment marqué ces derniers mois et même ces dernières semaines, c'est l'élection du nouveau président, hein, qui a été un petit cataclysme, parce que pour moi, on revient en arrière, en fait, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout porté, justement, sur tous les sujets que j'ai évoqués précédemment. Pour la défense des droits des femmes, là, on s'assoit complètement dessus. Donc, non, pour moi, c'est un gros retour en arrière. Je suis très déçue qu'il ait été élu. En plus, ça a une très petite différence, donc ça fait vraiment... une séparation dans la société avec les pros et les contres. Donc, je pense que ça va être très compliqué pour lui d'asseoir son autorité, d'asseoir ses idées, et tant mieux, parce que je suis pas du tout pour tout ce qu'il propose. Donc, je sais pas trop à quel point je peux réagir là-dessus, mais j'aimerais juste exprimer ma déception et sur le fait que voilà, j'avais beaucoup d'espoir sur la société coréenne et sur son évolution prochaine, et là je me dis on est freiné pendant au moins 5 ans, quoi.
C'est 4 ans, non? Les mandats présidents.
Non, c'est 5 ans, France. C'est comme en France.
C'est 5 ans? Ok, je pensais que c'était 4.
Non, c'est okay. Comme en France. Enfin, comme en France, okay, jusqu'à okay. Présent, parce qu'il y avait des débats pour la France pour changer à nouveau à 7 ans. Je sais pas trop où ça va en être, mais... non, en Corée, c'est 5 ans comme en France. Là, c'était 4 ans à cause de l'ancienne présidente qui a fini en prison, je pense.
Ah, c'est peut-être ça. Ok, je sais, ok. Pour
mais moi, c'est 5 ans.
Très bien. Eh ben, c'est 5 ans. Parfait. Ok, ouais, non, effectivement, c'est sûr que ça fait un gros retour. Je sais pas s'il a déjà dissolu seul le ministère de l'égalité homme-femme, mais je sais que c'est dans ses plans.
Ouais.
C'est déjà fait.
C'est dans ses plans, ouais, c'est...
Ouais, je,
non, c'est un truc vraiment affreux, quoi.
Ouais, il y a quelques années, ouais, où ça risque d'être compliqué. Après, il y a les législatives qui arrivent. S'il a pas la majorité, ouais, mais... le
alors,
débat sera imposé.
Autant en France, j'espère que voilà, ça puisse permettre la pluralité politique, les législatives, même s'il y a peu de chance. Autant en Corée, je doute fortement qu'il y ait une cohabitation. On verra ce qui se passe, mais j'en doute fortement, parce que c'est ça. Voilà, il n'y a pas comme en France l'opportunité d'allier tout plein de partis pour essayer de faire barrage. Donc,
okay.
J'ai peu d'espoir, malheureusement.
Très bien. Ouais, surtout c'est des élections en un seul tour, si je me trompe pas, en Corée. Par rapport à la France où c'est en deux tours. Donc il y a un échiquier politique bien plus fort en France.
Oui, tout à fait.
Je te propose, si tu en as un à faire passer, un petit mot de la fin, un message à transmettre pour les auditeurs qui sont en Corée ou aussi ceux qui sont en France. C'est à peu près du 50-50. Donc je ne sais pas, voilà, si tu as quelque chose à leur dire.
Moi, j'aimerais juste dire que je suis une auditrice fidèle de Seoul Connect, même si ça fait quelques épisodes où malheureusement j'ai pas pu écouter. J'adore écouter ce podcast quand je vais sur Séoul, parce que en général j'ai à peu près une heure de route en voiture, et quand je suis au volant, je mets systématiquement Seoul Connect et les nouveaux profils de gens, et je trouve ça hyper intéressant, passionnant en fait, tous les profils de gens qui ont été interviewés jusqu'à présent. J'espère que mon interview sera intéressante aussi pour les auditeurs, mais en tout cas jusqu'à présent j'ai vraiment adoré toutes les écoutes que j'ai faites. C'était vraiment hyper intéressant, des profils hyper diversifiés, et ça montre que n'importe qui peut venir en Corée, quel que soit son bagage scolaire, quelles que soient les langues qu'il parle, quelles que soient les opportunités ou non professionnelles. Enfin, c'est vraiment hyper passionnant, et j'invite tout le monde à garder l'esprit ouvert et à se mettre des objectifs pour essayer de les atteindre, tout simplement. Si on n'a pas d'objectif, on n'atteint pas grand-chose. Mais quand on se fixe quelque chose, on fait tout pour y arriver, et c'est comme ça qu'on arrive à réussir des choses, tout simplement. Et garder l'esprit ouvert, parce que je suis venue en Corée notamment grâce à la K-pop. J'ai aucune honte à le dire. Je m'intéresse plus énormément à la K-pop, même si j'écoute encore, parce que ça fait partie forcément de la culture coréenne de tous les jours. Mais c'est pas parce que j'ai écouté de la K-pop que j'étais pas forcément une personne sérieuse, et c'est toujours le cas d'ailleurs pour ceux qui écoutent de la K-pop aujourd'hui. C'est pas parce qu'on écoute de la K-pop ou de la musique commerciale, des boys band ou je sais pas quoi, que on est forcément quelqu'un qui a rien dans le cerveau, loin de là. Chacun ses goûts, et ça n'a absolument rien à voir avec les capacités individuelles de chacun, et ça peut permettre des expériences exceptionnelles, comme finir par passer 10 ans de vie en Corée, alors que on n'aurait jamais imaginé ça avant. Donc voilà, garder l'esprit ouvert et croire en ses rêves et en ses objectifs, parce que quand on en a et qu'on met les moyens pour les atteindre, et on réussit.
En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton expérience, et peut-être à bientôt.
Avec plaisir, merci à toi, et bon courage pour la suite, et très bonne continuation. J'attends les prochaines interviews avec impatience.
Merci.
Au revoir.